Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h40 sur RMC.
RMC. L'interview.
Bonjour Thierry Marx. Bienvenue sur RMC, merci de venir dans le studio en direct répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le chef doublement étoilé du restaurant gastronomique de l'hôtel Mandarin Oriental à Paris. Vous gérez aussi les deux restaurants situés dans les étages de la Tour Eiffel. Et vous publiez L'Assiette Santé, un livre avec toutes sortes de conseils pour bien manger. Vous allez nous dire dans un instant si on peut encore bien manger malgré la hausse des prix de l'alimentation. D'abord peut-être un mot de la sécheresse qui s'abat sur la France. Vous qui êtes si attaché aux produits de nos régions. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour les maraîchers, pour les éleveurs, pour tous les agriculteurs avec qui vous travaillez ?
Je suis inquiet pour toute la filière, évidemment. On a un phénomène de sécheresse qui est très, très, très intensif là. Mais en même temps, ce stress hydrique, on s'y attendait un petit peu. Donc, il faut vraiment maintenant ne plus reculer. Dire, il faut vraiment faire attention à notre consommation d'eau, à cette répartition de la consommation de l'eau pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos loisirs. Et comment nous, simples citoyens, devons-nous nous mettre en marche, en ordre de marche pour gérer notre eau? Parce que ça va devenir une denrée extrêmement rare. Déjà, dans mes cuisines, j'inscris ça comme une denrée rare. Donc, il faut continuer dans ce cheminement-là pour économiser l'eau sur cette planète, parce que le stress hydrique qu'on avait annoncé 2050-2070, aujourd'hui, on y est déjà et de façon un peu anticipée.
Il est là, ça a des conséquences sur les cultures. On avait encore un maraîcher tout à l'heure en direct qui nous disait qu'il allait avoir d'énormes pertes, qu'il avait arrêté, par exemple, d'arroser ses salades, qu'il les avait carrément abandonnées, qu'il ne pourrait pas les produire pour les mois prochains. Ça a déjà des conséquences pour vous, ou vous attendez à ce que ça ait des conséquences sur vos approvisionnements, sur ce que vous allez pouvoir mettre à la carte dans les mois qui viennent?
Bien sûr, ça a une conséquence sur nos approvisionnements dans tous les secteurs d'activité dans lesquels je suis, la restauration bien sûr, mais la boulangerie, donc la matière première est montée vraiment en termes de prix, donc ça à nous de nous adapter aussi et de se dire peut-être un peu moins de choix et de nous concentrer sur de dépenser l'argent autrement que nous avons pour ce fameux coût matière première et de faire une offre qui est peut-être moins pléthorique, mais une offre plus rationalisée pour pas non plus pénaliser l'agriculteur en lui faisant encore une fois écraser ses marges qu'il n'a plus du tout. Et quand j'entendais une publicité là à l'instant, 1,49€ un kilo de poire, vous imaginez bien comment vous avez écrasé toute la filière pour arriver à ce type de prix. Donc je pense qu'il faut arrêter aussi, quand on parle de pouvoir d'achat, d'écraser les marges comme ça sur l'alimentation et d'aller chercher du pouvoir d'achat sur d'autres secteurs.
Oui. Cette inflation, vous êtes obligé de la répercuter, par exemple, sur votre carte, à vos clients?
Bien évidemment, on va être obligé de la répercuter, c'est une évidence, mais encore une fois, soyons suffisamment pragmatiques, intelligents pour essayer de dire, eh bien, on va se concentrer sur un peu moins d'offres et en maintenant au mieux le prix que nous payons à l'agriculteur, parce que tout ça, ça a du sens, ça a un sens social. L'alimentation, c'est pas simplement un combat de chef et de gastronomie et de chef étoilé, c'est un combat sur l'alimentation, c'est un combat politique. Donc il faut travailler là-dessus, sur le fond et pas simplement sur la forme.
Vous aviez publié d'ailleurs une tribune au début du mois de juillet dans le journal du dimanche appelant à ne pas brader l'alimentation, à ne pas justement écraser les marges des agriculteurs comme vous le redites ce matin. Le problème c'est que c'est les grands écarts, il faut que de l'autre côté le plus grand nombre puisse avoir accès à des produits frais et il y a la démarche de la grande distribution qui est d'essayer de proposer le prix le plus bas. Comment on fait entre les deux pour que l'agriculteur s'y retrouve, pour que le consommateur puisse avoir accès aux fruits et légumes qui sont très chers cet été?
Mais encore une fois, c'est de pas de faire la variable d'ajustement du pouvoir d'achat sur l'alimentation. Il faut aller chercher une possibilité de pouvoir d'achat ailleurs. L'immobilier, par exemple, le coût du logement est très 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 fort en France. Donc il faut travailler là-dessus plutôt que de faire encore une fois baisser le prix de l'alimentation, d'écraser les marges de l'agriculteur. Pour moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est pas nouveau, c'est les années 70. La théorie du low cost. Vous renoncez à la qualité en échange de quoi? Je vous donne un gros volume pas cher. Ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que nous aussi, citoyens, nous devons interagir sur nos modes de consommation. Est-ce qu'on continue à consommer, voire à surconsommer et à consommer cette planète? Ou est-ce qu'à un moment nous réfléchissons, c'est quoi manger? C'est quoi se restaurer? Et c'est cela qu'il faut travailler. Je sais que ça paraît très pédagogique comme ça, mais là, on a un phénomène extrêmement dur sur le pouvoir d'achat, mais là, c'est empirique, bien sûr, mais il faut travailler sur le fond et sur les années à venir. Mmh. Et cette variable de l'ajustement a des conséquences sur l'alimentation extrêmement fortes qui vont avoir des, qui ont des conséquences déjà sur la santé.
Manger, mais sans tomber dans le low cost, on peut encore bien se nourrir, bien manger au prix que nous connaissons actuellement. Parce que le luxe, le bio, ça devient un luxe aujourd'hui.
Mais pour moi, le bio, je l'ai défendu, hein, je vais pas là sur votre plateau de critiquer le bio. C'est des gens qui se sont battus pour quand même faire en sorte qu'on ait une alimentation correcte. Mais le problème, c'est que on a en France maintenant la fracture sociale qui s'est considérablement durcie et maintenant on a l'alimentation à deux vitesses. Donc, des personnes qui peuvent consommer en circuit court et d'une extraction sociale un peu élevée et puis les autres, ben, contentez-vous du low cost et des produits ultra transformés. C'est ça qui fonctionne plus. Donc, c'est quoi un bon produit? Son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Donc, le bio ne garantit pas toujours un impact nutritionnel.
Mais du coup, vous dites quoi aux gens qui nous écoutent et qui sont à l'euro près quand ils vont faire leurs courses? Alors oui, ils vont aller acheter les fruits et légumes les moins chers, peut-être que ce seront pas les meilleurs, mais c'est peut-être mieux que rien.
Ah ouais, non, mais je vous arrête tout de suite. Moi, même si c'est pas les meilleurs, même si c'est un produit, mais dès lors que c'est du produit frais, dès lors que vous allez vous remettre à cuisiner, dès lors que vous allez vous remettre à vous faire confiance sur votre alimentation, mais déjà vous allez dompter un peu mieux votre budget, donc vous faites place à la cuisine, vous consommez mieux. En général, vous consommez moins et cette discipline que vous vous imposez par l'argent protège votre santé. Dès lors que vous faites confiance à une industrie pour vous nourrir, là, c'est très compliqué. Avant de venir sur votre plateau, je regardais un petit peu les offres dans certains magasins de la grande distribution. Je voyais un plat à 1 euro. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans un plat à 1 euro ? C'est en général de l'eau et de l'amidon aromatisé de quelque chose. Ça n'a aucun sens. Même si vous cuisinez mal, remettez-vous à cuisiner. Vous protégerez votre alimentation, votre porte-monnaie en général, et vous protégerez votre santé.
Les produits frais plutôt que les produits transformés. Vous militez d'ailleurs pour une forme d'éducation au bien manger. Ça doit s'apprendre, y compris à l'école. Vous dites il faut qu'on apprenne aux enfants à bien manger.
C'est évident. Moi, je suis de la spirale des années 70. Donc, tout facile dans les supermarchés, etc. etc. Maintenant, il faut refaire le mangeur de demain. Pour refaire le mangeur de demain, il faut le former à l'école, très jeune, très petit. C'est quoi bien manger? C'est quoi transformer un produit, etc. C'est quoi notre agriculture? Dans un cours de cuisine, vous avez un cours de géographie, un cours d'histoire, un cours d'arithmétique, un cours de français en général et un cours d'éducation civique au sens large du terme. C'est très intéressant. Il faut le financer. C'est vrai. Moi, je suis pas l'apôtre des taxes à tout prix. Mais regardez, les taxes sur la mauvaise alimentation. Tout ce qui est produit qu'on pourrait taxer, les sodas par exemple, qui sont très nuisibles pour la santé, eh bien avec cet argent, nous pourrions, un, réinvestir dans toute la filière alimentaire, deux, dans la filière sport, parce que vous ne pouvez pas lutter contre la malbouffe si vous ne luttez pas contre la sédentarité. Tout ça, c'est l'école. Mais il faut donner les moyens à l'école. Il faut aller chercher ces moyens dans des produits qui ne sont pas forcément des produits sains parce qu'on les surconsomme dans notre alimentation.
Et c'est d'ailleurs l'objet de votre livre, hein, l'assiette santé, où vous parlez pas seulement d'alimentation, vous parlez aussi de sommeil, de sport, de bien-être. Tout va ensemble, en fait. C'est notre mode
c'est
de vie.
C'est tout le travail. D'ailleurs, le cuisinier, l'artisan que je suis, peut parler de plaisir et de bien-être en cuisine. On peut pas parler de santé. Donc, avec Alexandra Dalu, on a regardé tous les paramètres qu'il y avait autour de l'assiette. Et effectivement, Alexandra Dalu, qui est un médecin reconnu, parle des problèmes de sommeil, des problèmes d'addiction aux écrans, tout un tas de choses qui vous rend extrêmement sédentaire. Et alors, effectivement, la problématique sur votre poids, sur votre coupe de poids, a une incidence. Mais aujourd'hui, et j'en parlais encore récemment avec Alexandra Dalu, elle me dit, il y a aujourd'hui des services pédiatriques liés à l'obésité. Et ça, c'est quand même extrêmement inquiétant sur le devenir de notre population.
Un mot, Thierry Marx, du contexte économique. Le secteur de la restauration sort de 2 ans très durs de la crise Covid. Est-ce que cet été marque le retour à la normale dans vos restaurants, à la Tour Eiffel notamment, à l'hôtel Mandarin Oriental, est-ce que les touristes sont de retour?
Les touristes sont de retour depuis le mois d'avril. Pour l'hôtellerie, donc on a vu beaucoup d'impact extrêmement positif pour l'hôtellerie. Pour la restauration, ça a été plus timide. Encore une fois, le risque, le pouvoir d'achat, tout ça fait qu'on va peut-être un peu rogner un petit peu sur le budget qui était lié à la restauration. Mais on a vu évidemment revenir des clients très nombreux dans nos restaurants.
La pénurie de main-d'œuvre, vous en souffrez
aussi? Alors, vous allez en parler. Effectivement, ouais. On souffre de cette pénurie de main-d'œuvre, mais je pense que tout ça se régularisera. La profession a fait d'énormes efforts en termes de salaire, en termes de qualité de vie au travail. Donc, je pense que tout ça.
C'est une remise en question pour vous. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez que le secteur de la restauration n'attire plus, ou en tout cas attire moins?
Non, je crois que c'est une remise en question. Toutes les crises nous amènent à des remises en question. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc effectivement, ça n'attire pas moins. Je pense qu'il y a des gens qui rentrent dans ce métier, pas pour être une solution métier, c'est pour être célèbre. Et c'est normal, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et puis, il y a ceux qui découvrent ces métiers, qui n'ont pas forcément une passion métier, mais qui vont intégrer ces métiers. Là aussi, il faut les accompagner. C'est tout le travail de nos écoles, où on aide des personnes qui, des fois, étaient éloignées de l'emploi, éloignées de l'idée d'avoir un projet métier. Et puis, si on les aide à monter en compétence dans nos métiers de façon qualitative, eh bien, ils intègrent notre métier. Tout ça prendra un peu de temps, bien évidemment. Mais en tout cas, cette crise nous a appris à nous remettre en question fortement.
Avec vos écoles que vous citez, cuisine, mode d'emploi, que vous proposez des formations gratuites aux jeunes sans diplôme pour les intégrer à ces métiers de la restauration. Merci beaucoup Thierry Marx d'être venu à RMC ce matin. Votre livre L'Assiette Santé, c'est chez Flammarion. À bientôt, merci beaucoup, bonne journée.